10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1, avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Bonjour Agnès Buzyn.
Bonjour Monsieur Darmon.
L'été indien du gouvernement est déjà un souvenir. Hein, en ce mois d'octobre 2019, la société française vit un malaise général. Hein, l'écologie, l'Europe et la sécurité intérieure, trois sujets majeurs, trois crises. Avec la pollution à Rouen, le rejet d'une candidate française à la Commission de Bruxelles et l'onde de choc de la tuerie au cœur de la préfecture de police. Il faut bien sûr rajouter le mal-être des agriculteurs, les idées noires chez les enseignants et bien évidemment l'hôpital public mal en point. Sur ce sujet, on va vous entendre bien sûr en priorité. Vous venez du monde médical et il semble parfois que le dialogue avec le peuple de l'hôpital, hein, urgentistes, personnel soignant, soit pas toujours des plus faciles. La transformation du pays voulue par le président Macron est aussi une opération à cœur ouvert avec un risque de quitte ou double pour 2022. Vous nous direz comment vous interprétez l'ancrage du vote protestataire après 2 ans de macronisme. On l'a compris, vous portez de nombreux dossiers sensibles, Agnès Buzyn, mes côtés pour vous interroger, Nicolas Barret des Échos et Damien Fleurot pour CNews qui ouvre ce grand rendez-vous.
Bonjour Agnès Buzyn.
Bonjour.
Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on va se sortir de cette crise qui dure depuis bientôt 7 mois et qui traverse le monde de l'hôpital? Un chiffre, 267 services d'urgence étaient en grève mercredi dernier.
Oui, je pense que si vous me permettez la métaphore médicale, puisque vous avez commencé comme ça, Monsieur Darmon.
Vous y êtes autorisé.
Je pense que le diagnostic est bien posé. Quand on est arrivé dès 2017, j'ai tout de suite dit que notre système de santé était à bout de souffle et que l'hôpital était à bout de souffle et qu'il souffrait de la désorganisation complète. J'ai mis des mots sur un diagnostic et je pense que le pronostic est bon parce que nous avons fait des réformes. La réforme du système de santé, elle a été votée en juillet. Nous sommes à 3 mois de la loi qui va me permettre d'avoir les leviers de la transformation. Parce que pour transformer, parfois, il faut des textes.
Et pourtant, il y a toujours plus de services en grève.
Mais parce que je comprends l'impatience.
C'est de l'impatience ou c'est de la désapprobation concernant justement les enjeux, les pistes de réforme que vous avez posées?
Non, il n'y a pas de désapprobation sur le cap. D'ailleurs, toutes les fédérations hospitalières, tous les syndicats de médecins sont d'accord sur le cap de la loi. D'ailleurs, la loi a été votée à la fois par des députés de droite, de gauche. J'ai pas dit pas de changement de méthode. J'ai dit le cap est le bon. Mais il y a un problème spécifique à l'hôpital. Et l'hôpital, même s'il est le réceptacle des dysfonctionnements et qu'il faut traiter l'ensemble du système pour que l'hôpital s'en sorte, il y a un vrai problème à la fois d'attractivité des carrières. Il y a eu un sous-investissement pendant des années dans l'hôpital public. Et effectivement, les équipes n'ont plus envie d'y travailler. Il y a eu plein de réformes non accompagnées qui ont entraîné des dysfonctionnements internes. Et donc, il faut changer la gouvernance, l'attractivité. Et j'y travaille.
Si Madame Agnès Buzyn était chef d'un service hospitalier en octobre 2019, que dirait-elle à Madame Agnès Buzyn, ministre venue la visiter?
Il y a une très belle tribune aujourd'hui dans Le Parisien, faite par un de mes collègues que je ne connais pas d'ailleurs. Je crois qu'il s'appelle Philippe Lévy. Il a tout dit dans sa tribune. Je l'ai lu ce matin en arrivant. Il dit tout. Il parle de la réforme de la gouvernance où on a créé des très grands pôles. On a déshabillé les services. Or, c'est dans les services que se font les équipes, la cohésion. On a sorti les cadres hospitaliers du soin. Donc, les cadres font que de l'administration. Ils gèrent des plannings. Ils ne sont plus auprès des infirmiers. Il y a moins de personnel dans les services, il y a moins de personnel encadrant auprès des soignants, il n'y a plus la capacité à faire de la cohésion au sein des services, il y a de moins en moins d'investissements dans les matériels, il y a besoin de redonner du sens et quelque part j'adhère totalement à ce qu'il dit. Maintenant, je vais vous dire, le constat, je voudrais juste terminer, le constat, tout le monde fait le même constat, ça va mal, on sait pourquoi, et je veux apporter des solutions. Or, ce que je vois dans les contestations aujourd'hui, c'est que les solutions qui sont proposées sont des solutions de court terme, alors que je cherche à apporter des solutions de long terme.
Et pourtant, Nicolas Barré.
Quand vous voyez, il y a plusieurs centaines de médecins et de personnels soignants qui ont formé un collectif interhôpitaux, qui veulent organiser une manifestation en novembre à Paris. Ils étaient réunis jeudi à la Pitié. Il y a même une écrivaine, Marie Desplechin, qui les soutient. Là, on est un peu dans l'émotion. Comment est-ce que vous vous adressez à ces personnels qui vous interpellent, en fait?
Et aux malades, qui veulent faire la convergence avec aussi les
malades, ils sont très reconnaissants aux soignants. Ils voient bien l'engagement. Et donc, moi, je comprends l'émotion de tous les Français vis-à-vis de l'hôpital, vis-à-vis de ce que vivent les soignants, vis-à-vis des difficultés qu'ils observent, les malades, quand ils vont aux urgences ou dans les services. je l'ai vécu, je sors de l'hôpital public il y a encore 2 ans et demi, je travaillais à l'hôpital Saint-Antoine, donc je ne suis pas ignorante de la façon dont les soignants sont mis sous pression. Je suis venue au ministère pour guérir l'hôpital. Je suis venue au ministère pour trouver les bonnes solutions. Or, ce que j'observe dans le collectif, parce qu'ils ne le savent pas, mais je suis dans la boucle de mail des médecins qui s'écrivent au sujet de leur envie de faire grève, etc.
Vous les observez de loin. Vous les observez sous un pseudonyme
Non, mais ils ne le savent pas. Mais il se trouve que j'ai fait partie de cette boucle de mail quand j'étais médecin moi-même à l'hôpital. Donc je les reçois, je les observe. Et je suis sidérée, d'abord de leur méconnaissance du système, du nombre d'informations fausses dont ils disposent et sur lesquelles ils basent leur raisonnement, et à quel point leurs solutions sont des solutions de court terme qui ne règlent pas le problème. J'ai envie de leur écrire souvent, je me dis je vais leur écrire.
Alors, bon, faites-le vous annoncer ce matin au grand rendez-vous que vous allez leur écrire.
C'est probablement ce qui nous fait défaut dans cette société. C'est que nous avons beaucoup de mal quand nous sommes aux affaires, comme on dit, quand on fait de la politique, à avoir des informations qui touchent au plus près les personnes à qui on veut parler. On n'a pas d'intermédiation, on n'a pas d'intermédiaire capable de rapporter la parole. Et donc, en fait, il se passe une forme d'information horizontale par les réseaux sociaux qui déforme absolument la parole publique. C'est très impressionnant.
Le dialogue avec les syndicats ne fonctionne pas à ce niveau-là ?
Mais les syndicats, certains syndicats sont raisonnables, d'autres déforment la réalité pour évidemment en demander toujours plus. Et moi, ce que j'observe, c'est qu'on me propose toujours des solutions qui sont des rustines. Or, ce que je cherche à faire, et c'est vraiment la spécificité du gouvernement aujourd'hui, c'est de faire des réformes structurelles de long terme. Notre pays, je pense, ce mal-être que tout le monde ressent vient du fait qu'on n'a proposé que des rustines depuis 30 ans.
On entend votre compréhension ce matin, effectivement, c'est d'ailleurs pas la première fois que vous le dites, mais au fond, on se pose aussi un peu la question, c'est ce qu'on entend venant aussi de l'hôpital. Votre statut d'hyper-expert, peut-être entre guillemets de mandarin, peut parfois vous mettre en difficulté pour parler avec ceux qui sont à la base de l'hôpital. Est-ce que vous ressentez cela ? Est-ce que vous pensez qu'il faut, de ce point de vue-là, faire évoluer aussi votre méthode ?
D'abord, je ne crois pas avoir jamais été un mandarin. Je pense que je parle vraiment quand je travaille aujourd'hui, je pense aux aides-soignantes. J'y pense tous les jours, en fait. J'ai lancé une mission, la mission de Myriam El Khomri, pour travailler sur les métiers du soin, les métiers du grand âge, mais les métiers du soin en général. Et je pense à ces femmes qui sont dans des situations extrêmement précaires, qui sont aujourd'hui les moins reconnues, les moins valorisées, alors qu'elles font le travail le plus difficile qu'il soit. Et c'est à elles que je pense tous les jours aujourd'hui quand je pense à la réforme de l'hôpital.
Damien Fleurot.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce matin, notamment dans la mise en place du service d'accès aux soins que vous souhaitez, qu'il y aura par exemple un numéro d'accès unique aux soins ? Vous le souhaitez, mais vous ne sembliez pas rassuré. Ça permettrait, notamment, selon vous, de dénouer cette crise, notamment qui touche les services d'urgence.
Alors là, c'est spécifiquement pour les urgences. Hein. C'est vraiment pour désengorger les urgences de toutes les personnes qui n'ont pas forcément besoin d'y aller.
Mais est-ce qu'il sera effectif, ce numéro, cet été prochain ?
Il sera avant l'été. Avant l'été, ce SAS.
C'est une certitude.
C'est une certitude.
Vous êtes mis d'accord avec les pompiers, les différents acteurs, le SAMU ?
Nous travaillons aujourd'hui avec les pompiers, avec les responsables du SAMU, avec les médecins libéraux. Je leur ai donné 2 mois pour me faire une proposition. Elle doit arriver avant décembre, ce qui me laissera 6 mois pour mettre en place le dispositif opérationnel. Je veux qu'avant l'été 2020, ce numéro de téléphone qui permettra à tous les Français de s'orienter dans le système de santé de façon à ne pas aboutir aux urgences parce qu'on ne trouve pas de médecin, parce qu'on on ne sait pas vers qui se tourner, tout cela soit réglé. Nous savons d'ores et déjà que 20% des passages aux urgences le sont pour de mauvaises raisons. Et que déjà 20% de ces passages pourraient être évités par ce numéro d'appel.
Sur la revalorisation salariale,
Il
demande 300 euros net mensuels.
Je suis en train de travailler. Non, je suis en train de travailler sur les spécificités. Il y a un vrai sujet, évidemment, des rémunérations. Il faut tenir compte de la rémunération directe, mais aussi de tout ce qui est indirect, le temps de travail, la rémunération des gardes, etc. Un vrai travail doit s'engager. J'ai demandé à mes équipes d'ouvrir ce dossier, notamment pour les débuts de carrière. Les débuts de carrière, que ce soit des médecins et des infirmiers, parce que c'est vraiment trop difficile aujourd'hui. Et puis, sur les deuxièmes parties de carrière, comment aussi valoriser, comment donner de l'espoir, des perspectives à un certain nombre de professions paramédicales. Je pense aux infirmières, aux aides-soignantes. Ce travail doit s'engager et je l'annonce aujourd'hui, si vous le souhaitez, mais clairement, je pense qu'il y a un problème de rémunération si l'on veut rendre de nouveau l'hôpital attractif. Ça n'est pas le seul problème. Il y a aussi l'aspect gouvernance, j'en ai parlé tout à l'heure. Il faut maintenant que les hôpitaux s'organisent autour d'un projet médical. Les hôpitaux sont gérés de façon très administrative, ça décourage beaucoup de soignants. Il faut redonner de la place au projet médical dans la gouvernance de l'hôpital.
Justement, on entend que vous annoncez ce matin d'ailleurs effectivement qu'il y aura un travail sur la rémunération. De ce point de vue-là, c'est clair. Mais la situation est quand même à ce point terrible que certains, notamment dans certaines villes, envisagent la privatisation, l'entrée de capitaux privés, l'exemple de cet hôpital donc dans le Maine-et-Loire qui donc a un partenaire privé pour l'aider à gérer maintenant la situation. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Non, ça n'est pas mon modèle, c'est le moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui nous avons un système avec un secteur privé qui fait bien son travail, un secteur public qui répond à d'autres besoins. Mon objectif, c'est de faire en sorte que l'hôpital public retrouve sa cohésion, le sens. Les gens qui vont travailler à l'hôpital public aujourd'hui savent pourquoi ils le font.
Les élus locaux disent on ne peut plus tenir, c'est plus possible.
L'hôpital dont vous parlez est une exception. C'est un hôpital qui avait été extrêmement mal géré, qui avait des dettes énormes et c'est une exception sur lequel je ne vais pas disserter. Mon projet n'est pas aujourd'hui de faire entrer des capitaux privés dans l'hôpital public.
La Cour des comptes recommande souvent des fusions d'établissements hospitaliers. Ça ne va pas à l'encontre de cette revendication sur la lutte contre le désert médical qu'on a vu émerger du grand débat ?
Non, ce qu'on doit absolument favoriser, c'est des complémentarités entre le secteur privé et public dans certains territoires, notamment des territoires où l'offre de soins est rare et on ne peut pas se permettre de mettre les deux secteurs en compétition. Ils doivent être coordonnés et être complémentaires pour rendre le service qu'ils doivent rendre à la population.
On a bien compris qu'effectivement, vous êtes donc contre la privatisation de l'hôpital. On se retrouve avec le grand rendez-vous, n'est-ce pas, pour pouvoir continuer à aborder ce sujet crucial.
Le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews. 10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleureau, Mickaël Darmon.
Et l'on retrouve Agnès Buzyn, ministre de la Santé et des Solidarités, dans ce grand rendez-vous. On continue donc à parler de l'hôpital avec Nicolas Barré.
Oui, la Sécu est dans le rouge, hein, environ 5 milliards d'euros. Les partenaires sociaux ont rendu un avis négatif sur le budget de la Sécu parce que l'État ne compense pas des mesures comme les exonérations de charges sociales sur les heures sup. Vous auriez souhaité que l'État compense. Est-ce que vous espérez que les députés vont vous donner raison ?
Écoutez, il y a c'est un peu technique, mais enfin, l'année dernière, nous avions voté. C'est aussi politique, mais c'était aussi technique. On avait voté l'année dernière le fait que l'État ne compense plus systématiquement la sécurité sociale et qu'il y ait la règle du chacun chez soi. Ouais. Donc aujourd'hui, les mesures que nous avons prises en décembre contre.
C'est les mesures gilets jaunes.
Pour le pouvoir d'achat aujourd'hui, effectivement, créer de nouveau un déficit au sein de la sécurité sociale. Nous allons reculer, évidemment, le délai avec lequel nous allons retrouver l'équilibre.
Moi, mon objectif... Pas avant 2023, maintenant.
Oui, l'objectif, c'est qu'on continue de faire les mesures nécessaires pour adapter notre protection sociale aux nouveaux besoins. Et donc, c'est un projet de loi de financement de la sécurité sociale qui apporte des mesures nouvelles, des belles mesures de protection sociale. Et en responsabilité, nous essayons petit à petit de réduire le déficit, mais dans un délai qui évidemment va s'allonger par rapport au
budget. Effectivement, vous le dites de manière un peu contrainte quand même, non ? Ça vous a pas vraiment, n'est-ce pas satisfaite cette disposition ?
Le corollaire de cette décision, c'est que la sécurité sociale ne sera pas à l'équilibre dans le délai qui était imparti. Dont acte, nous serons à l'équilibre plus tard, mais je continue de porter un projet politique derrière la sécurité sociale. Il y a à la fois la responsabilité de bien gérer un budget et la responsabilité politique, c'est aussi d'apporter des réponses à des besoins. Je pense notamment à ce que nous faisons pour les pensions alimentaires, de façon à créer de l'intermédiation pour les femmes divorcées qui ne touchent pas les pensions et qui vont avoir ce nouveau service. Je pense notamment au congé proche aidant qui va être indemnisé pendant 3 mois.
Alors ça, c'est nouveau, la manière de payer justement ces aidants. Ça,
là, ce sont des très belles mesures sociales. Ce sont des mesures qui couvrent des besoins qui n'existait pas quand on a créé la sécurité sociale il y a 50 ans, les familles monoparentales, comment mieux les accompagner. C'est un nouveau besoin. Et donc, on va aider les femmes à récupérer les pensions alimentaires. Le congé proche aidant, c'était aussi quelque chose qui n'existait pas. Évidemment,
ça va concerner combien de personnes ?
Aujourd'hui, je ne sais pas combien vont demander ce congé proche aidant. Il existe dans la loi. On peut prendre un congé de 3 mois sans solde. Et donc là, la sécurité sociale s'engage à indemniser ce congé de 3 mois dans une carrière pour prendre soin de quelqu'un qui tombe malade, par exemple, ou qui a un handicap. Et c'est quelque chose de nouveau. Nous créons également un parcours de soins de l'après-cancer. Nous savons que les personnes qui ont été atteintes d'un cancer ont besoin de se reconstruire. Elles ont besoin d'activité physique, parfois de psychologue, parfois de soins diététiques. Tout ça va être pris en charge en un forfait. Ce sont des belles mesures d'accompagnement de nouveaux besoins. Et je pense qu'on peut être... En tous les cas, moi, je suis très fière des mesures que nous portons dans ce projet de financement de la sécurité sociale.
Elles ont été dures à arracher. Vous avez le sentiment que vous devez être sans arrêt au combat pour rééquilibrer un peu socialement la politique gouvernementale?
Non, pas du tout. Je pense qu'on est vraiment dans l'acte 2 du quinquennat. Nous avons énormément écouté. Le président de la République, lors du grand débat, a entendu, par exemple, la problématique des familles monoparentales qui a émergé de façon très visible sur les ronds-points.
C'était vraiment les avec Bercy, en gros, c'est ça que vous nous dites ce matin, tout va très bien.
Tout va mieux
avec votre collègue Gérald Darmanin.
Il y a toujours des discussions avec Bercy. Après, je vais vous dire, le déficit, qu'il soit à la sécurité sociale ou à l'État, à la fin, ce sont les Français qui le payent. Et à la fin, c'est le même déficit, c'est le déficit de la France. Donc, il y a deux déficits différents, celui de l'État et celui de la sécurité sociale, mais à la fin, ils ne font qu'un. C'est le déficit de la France. Et donc, nous avons discuté de ça longuement avec Gérald Darmanin.
Plus clair autrement, mais
ce qui compte pour moi, c'est que je puisse faire que je puisse répondre aux nouveaux besoins et apporter de nouvelles solutions aux Français. C'est ce que je fais dans ce PLFSS notamment.
Damien Fleurot. On passe à un autre sujet, mais c'est toujours le vôtre.
Vous étiez cette semaine une nouvelle fois à Rouen, après la catastrophe de l'usine de Lubrizol. Vous aviez dit quelques jours après que la ville était polluée.
Le lendemain.
Est-ce que c'est toujours le cas ?
Écoutez, elle commence à être nettoyée. Elle a été nettoyée notamment par les habitants. J'aurais préféré certainement que l'industriel soit plus proactif dans l'aide aux communes, mais il réparera les dépenses que les communes ont faites en termes de nettoyage. Ça, c'est un engagement qu'il a pris lors du comité de transparence et de dialogue qui s'est tenu vendredi à Rouen.
L'entreprise n'est pas suffisamment responsable face à ce sinistre, si les responsabilités pour l'instant...
Elle va être mise face à ses responsabilités. Le discours d'Elisabeth Borne était très clair. C'est du droit privé. C'est vraiment la politique pollueur-payeur. L'industriel devra réparer et payer pour les conséquences dramatiques de cet accident industriel. Et donc aujourd'hui, ce que je peux dire aux Rouennais, c'est que pour l'instant, tous les résultats que nous avons, que ce soit sur les prélèvements d'air, sur les prélèvements de suie, sur l'eau, sont rassurants. Ils peuvent reprendre une vie normale.
Alors,
il y aura des prélèvements complémentaires.
À propos prélèvements, justement, Damien Fleurot, à propos prélèvements.
Et justement, vous avez lancé toute une série de prélèvements, tous sauf peut-être un, les prélèvements sanguins. Ce n'était pas nécessaire, selon vous.
Ça a été fait à Seveso en 76. Pourquoi on ne le fait pas, tout simplement?
Mais parce qu'il faut savoir quoi rechercher. Seveso en 76, c'était un produit spécifique et qui est entraîné, donc on pouvait le mesurer dans le sang des gens. Là, ce que nous avons recherché, c'est-à-dire ce qui était dans l'usine, les aimants qui ont brûlé, notamment les hydrocarbures, n'ont pas été retrouvés dans l'air ou dans les suies. Parce qu'en fait, ils ont brûlé. Il y a eu de la combustion. Et à la fin, ce sont des suies qu'on retrouve comme des suies de cheminée. Donc, en réalité, pour faire des prises de sang, il faut savoir quoi rechercher. Donc moi, j'ai demandé aux agences sanitaires, sur la base de tous les prélèvements dont elles disposent, de tous les résultats, de nous dire ce que nous devons faire en termes de surveillance de la population. Si elles nous disent qu'il faut faire un suivi individuel des gens, nous le ferons. Si c'est un suivi épidémiologique, c'est-à-dire plus général de la population, nous le ferons. Aujourd'hui, j'attends l'avis des experts sur la base des résultats.
Quand est-ce que viendront ces avis ?
Ils sont en train d'y travailler. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas eu de toxicité aiguë, en dehors évidemment des irritations, des troubles respiratoires ou des nausées liées à la fumée et liées aux odeurs. Mais il n'y a pas eu de toxique libéré dans l'atmosphère. Alors, et donc, on peut rassurer la population sur ce point.
La mise en cause systématique des experts, justement, dans ce genre d'incident,
les experts, ce sont des médecins.
Qu'est-ce que ça vous inspire ? Une forme d'hystérie collective ?
Oui,
on fait plus confiance à personne ?
C'est vraiment un des problèmes de notre société.
Les experts contre Twitter, c'est ça ?
Les experts sont sur Twitter, oui, c'est cela. Aujourd'hui, c'est quoi les experts pour une agence sanitaire ? Ce sont des médecins, ce sont des biologistes, ce sont des spécialistes de l'agriculture, des vétérinaires, ce sont des gens dont le métier est de s'occuper de la santé, soit animale, soit humaine, soit environnementale. Les agences sanitaires ne savent pas faire sans des gens dont c'est le métier. Et donc, en fait, elles recrutent en fonction du problème les spécialistes du métier. Donc là, nous avons par exemple des spécialistes des problèmes pulmonaires. Nous avons demandé à des pneumologues d'être présents parmi nos experts. Et donc, si la population ne croit plus ses médecins, si la population ne croit plus ses vétérinaires, qui croit ?
Donc, parce que c'est ce qu'on a encore vu, là, le comité de transparence qui a été installé, entre autres, par vous et deux de vos collègues du gouvernement, il suscite de la méfiance. Donc, vous venez de dire transparence, la réponse c'est on se méfie. Comment vous expliquez
ça ? Moi, je n'ai pas senti ça dans le comité de transparence. J'ai trouvé au contraire que l'esprit était plutôt apaisé. Le fait qu'on mette tout sur la table, c'est-à-dire absolument tout ce qu'on sait et tout ce qu'on ne sait pas. Et dire qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, eh bien, en réalité, ça, je trouve, calmer les esprits. Et j'ai trouvé que c'était de très bonne tenue. Nous nous sommes engagés sur une enquête, une étude sur les risques sanitaires que crée la situation. Et c'est une étude qui va m'être faite par les grandes agences sanitaires de l'environnement et de la santé. Et sur la base de l'évaluation d'un risque sanitaire, nous verrons si nous devons apporter un suivi particulier à la population de Rouen. Mais évidemment, cet engagement, il a été pris devant les élus et devant les associations.
Est-ce que la population de Rouen aura le privilège de voir Emmanuel Macron, il s'est engagé à se rendre sur place.
Vous pouvez nous dire quand il viendra ? Je ne connais pas son agenda, je ne sais pas quand il viendra, mais je lui souhaite.
Parce qu'il pourrait rassurer lui aussi, justement, sa parole.
Je pense qu'il faut qu'il vienne quand on pourra justement dire des choses sur ce suivi sanitaire et qu'il aura la totalité des événements.
Il faudra quoi qu'il fasse un débat de 5 ou 6 heures sur information et pollution, sur crédibilité de la parole publique, sur quoi ?
Non, sur entendre... moi, je crois que c'était très important d'écouter les inquiétudes des Rouennais. Elles ont été vraiment entendues. Je crois que ça n'est pas dans l'air du temps aujourd'hui de dire aux gens « tout va bien, circulez, il n'y a rien à voir ».
C'est très
important.
C'est un peu ce qu'a dit le préfet dans les premières heures.
Le préfet, mais en fait, il a tenu compte des éléments qu'il avait, qui étaient en fait des résultats rassurants sur l'air.
Peut-être, mais il ne faut pas changer de méthode, justement. Ce sera peut-être l'objet de la commission d'enquête.
Je crois que sur la communication, il est très important de dire quand on ne sait pas les choses. Et moi, c'est ce que j'ai voulu dire aux Rouennais dès le premier jour. Ce que je sais, pour l'instant, les premiers éléments, mes premiers résultats sont rassurants. Mais il y a encore des résultats en attente. Notamment, nous avons encore des résultats en attente sur la dioxine dans le lait ou dans les fourrages. Et tant que nous n'avons pas la totalité des prélèvements et des recherches de polluants, eh bien, on ne peut pas être totalement rassurant parce que ça serait mentir aux gens. Mais aujourd'hui, je peux dire que sur la très grande majorité des polluants recherchés, alors, en tous les cas, tous ceux qu'on a recherchés, pour l'instant, sont en dessous des seuils de toxicité. Et donc, au fur et à mesure, on peut lever les doutes.
Donc, c'est un processus qui va continuer à évoluer, et dans la transparence, et dans le dossier.
Les prélèvements vont continuer dans les champs, évidemment.
On se retrouve donc dans quelques instants pour continuer à évoquer les sujets qui crispent la société.
Le Grand Rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews. 10h, 11h, le Grand Rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Mickaël Darmon.
Et on retrouve Agnès Buzyn, on continue à évoquer des sujets, elle a beaucoup de sujets qui fâchent, hein, qui sont sensibles sur son bureau. Nicolas Barré.
Alors ce matin, Xavier Bertrand, dans une interview au Journal du Dimanche, le président de la région Hauts-de-France, bien sûr, dit que l'islamisme gangrène le pays. Est-ce qu'il gangrène aussi l'hôpital ?
Alors c'est évidemment une question que j'ai posée à mes services en arrivant. En fait, on a un suivi, évidemment, des signes de radicalisation à l'hôpital. On a dans chaque département, notamment, un référent sur la radicalisation, parce que nous voulons avoir des remontées de terrain. J'en ai relativement peu. Donc j'ai redemandé très récemment qu'on me refasse une évaluation de ce qui se passe dans les différents secteurs sanitaires et médico-sociaux.
À la suite de l'attaque de la préfecture de police,
oui, vous avez demandé. Oui, mais je l'avais déjà demandé il y a un an, donc c'est quelque chose que je suis très...
Quand vous dites relativement peu, cela veut dire quoi ?
On a peu de signaux, de difficultés de directeurs d'hôpitaux à gérer des personnels qui, par exemple, demanderaient à faire la prière ou porteraient le voile. On a assez peu de signaux d'alerte aujourd'hui dans nos établissements sociaux. Mais je continue de suivre cela très près. J'ai demandé qu'on me fasse une note tout récemment. Et donc, j'attends les remontées. Mais on a organisé, quand même pour vous rassurer, on a organisé la remontée d'informations. C'est-à-dire aujourd'hui, les agences régionales de santé ont un référent radicalisation. Ils sont également présents dans les départements et ils sont en lien avec les directeurs d'établissement pour être au contact de ces directeurs et les aider à gérer leurs problèmes.
Est-ce que les personnels sont suffisamment outillés pour gérer ces questions-là ? Est-ce qu'il y a des consignes suffisamment précises, par exemple, quand, disons, un patient refuse d'être traité par une femme, par exemple ?
Oui, alors ça, c'est autre chose, mais ça, on sait le gérer très, très bien. Ce que nous avons, c'est des outils. Nous avons dans la formation initiale et continue des directeurs d'hôpitaux, nous avons un module de formation à la radicalisation et à comment prendre en charge, évidemment, ces problèmes. Donc, nos directeurs d'établissement sont formés. Il y a des modules de formation continue. Il y a des référents radicalisation qui permettent d'accompagner des établissements qui ont un problème. Donc, aujourd'hui, nous sommes organisés. Alors, je ne dis pas que tout va bien. Je ne dis pas que on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais en tous les cas, les choses se sont mises en place pour repérer.
Surtout que depuis donc l'hommage rendu aux policiers par le président de la République, la société de vigilance a été, ce sont ses propres termes, a été donc décrétée. Comment l'appliquez-vous sur le terrain hospitalier, premièrement médical, et puis surtout de manière plus générale, comment au fond tout simplement éviter de passer de la vigilance à la délation ?
En disant que vigilance, ça n'est pas de la délation.
Oui,
vigilance,
mais une fois qu'on l'a dit, comportement, comment on décline ?
Trouver cette ligne de crête. Il faut faire confiance, je dirais, aux petits signaux que l'on ressent quand quelqu'un commence à refuser de serrer la main d'une femme, qu'on change son comportement,
concrètement,
on le signale, à sa hiérarchie qui doit faire remonter les signaux d'alerte. Et après, nous avons évidemment des dispositifs qui accompagnent les directeurs pour juger de la situation.
Ça vous inquiète pas parce que cette ligne de crête, elle est quand même très dure à trouver, très fine.
Oui, mais en réalité, on le sent tous. Le président de la République n'a fait que mettre des mots à quelque chose que nous sentons tous. Quand on voit qu'il y a eu une personne radicalisée au sein même d'un service en charge du terrorisme dans la préfecture de Paris, de police de Paris, on sent bien que là, ce n'est pas un problème de procédure ou de loi. C'est que les personnes qui étaient autour du tueur ont repéré des choses et n'ont pas, peut-être pas suffisamment alerté, ou les personnes qui ont été alertées n'ont pas fait remonter. Donc il y a vraiment maintenant la nécessité pour chacun d'entre nous d'être attentif à ce qui se passe à côté
de l'islamiste, soi. Il fallait employer cette formule, il fallait mobiliser la société, alors qu'au fond, les dysfonctionnements, vous l'avez signalé vous-même, au corps de la police, ont été patents, identifiés, et on appelle la société au secours en disant on ne peut pas y arriver tout seul.
On se rend bien compte que ce n'est pas une nouvelle loi. Qui va être capable de repérer ça ? Quelle loi va permettre de repérer quelqu'un qui, tout d'un coup, se radicalise dans son lieu de travail, dans son domicile ? Et nous savons bien qu'à un moment, la loi ne peut pas tout. Les lois ont été prises. Nous avons les outils, nous avons les procédures. Mais il faut un moment que les alertes remontent. Et là, clairement, elles ne sont pas remontées.
Damien Fleurot.
Agnès Buzyn, dans une tribune de Laurent Berger, publiée ce matin par le Journal du Dimanche, le patron de la CFDT dit « L'enjeu de la réforme des retraites n'est pas financier ». Et il explique « Les dépenses de retraite sont désormais maîtrisées. Elles évolueront à l'avenir comme la richesse nationale ». Qui dit vrai, lui où le président de la République, qui nous disait il y a quelques jours, lors d'un grand débat sur ce sujet, eh bien, on va droit dans le mur, en clair, si on ne réforme pas.
J'ai envie de vous dire les deux. En réalité, Laurent Berger a raison, et j'ai trouvé sa tribune intéressante parce qu'elle elle reprend vraiment l'angle avec lequel on a travaillé la refondation du système de retraite. Elle doit répondre à un enjeu de meilleure équité et de meilleure prise en compte des carrières hachées, des parcours professionnels diversifiés qui aujourd'hui sont très pénalisés dans le système de retraite actuel. Et donc évidemment, ça n'est pas une réforme, ça n'est pas une réforme budgétaire. C'est une réforme d'équité qui va normalement et dont l'objectif est
donc
de rassurer.
Donc il n'y a pas d'urgence financière, c'est ça que vous êtes
non,
en train de nous dire.
Non, il n'y a pas c'est là où je veux en venir. Notre système est quand même en déficit. C'est-à-dire que même si l'objectif n'est pas d'avoir à la fin un objectif budgétaire, mais bien une réforme d'équité, nous avons un problème. Nous avons un système de retraite qui aujourd'hui est déficitaire
et qui va le rester encore
longtemps. Et donc en réalité, notre système actuel n'est pas stabilisé. Nous savons bien que si nous ne faisons pas de réforme, de toute façon, le déficit risque de s'aggraver dans les années qui viennent. Et d'ailleurs, nous avons demandé au comité d'orientation des retraites de nous faire de nouvelles évaluations de la trajectoire budgétaire. Donc, il y a bien, de toute façon, des réformes à faire pour remettre notre système de retraite à l'équilibre. Mais là où il a raison, c'est que la philosophie de la refondation de notre système de retraite, c'est une philosophie profondément d'équité pour s'adapter au XXIe siècle et au parcours professionnel du XXIe siècle.
Ça vous rassure que Laurent Berger soit, comme on dit, remonté à bord de la réforme? Il avait été un peu mis de côté depuis le début du quinquennat. C'est aussi un acte symbolique de cette deuxième partie du quinquennat. Laurent Berger revient dans l'accompagnement des réformes?
Oui, moi je crois qu'il est très important d'écouter la voix des syndicats réformistes, des syndicats qui sont à la fois à l'écoute de nos concitoyens, mais qui sont prêts à faire bouger les lignes et qui ont une vision d'avenir de notre pays et pas une vision de crispation face au passé. Je suis heureuse qu'il soit de nouveau entendu et que nous soyons évidemment à l'écoute de ces propositions.
L'enjeu va être fort parce que malgré cela, les crispations continuent. Il y a des manifestations qui se préparent. SOS Retraite, donc le collectif ne désarme pas. Un médecin, infirmière, kiné, orthophoniste, pilote de ligne.
Vous savez, tout le monde est appelé. Le conservatisme ne peut pas être un projet d'avenir, monsieur Darmon.
C'est conservatisme ou c'est la peur pour chacun de ne pas savoir comment son statut va évoluer?
Alors, c'est la peur pour chacun. Vous avez raison, c'est pas bien d'appeler ça du conservatisme parce qu'en réalité, je ne pense pas que ce soient des gens forcément conservateurs derrière. C'est des gens qui effectivement ont peur de ne pas savoir dans quoi on les engage. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons maintenant branche par branche, régime par régime, pour les accompagner dans une période de transition qui, pour certains régimes, va être longue. Parce que nous savons très bien que certains régimes ne peuvent pas basculer dans le nouveau système en un an. Ils en sont trop éloignés.
Mais du coup, en fait, cette réforme, elle va coûter une fortune, parce que sur chacune de ces professions, vous allez devoir accorder des compensations, en fait.
Il y a certainement des changements, des accompagnements parfois financiers, parfois organisationnels à faire dans certaines professions.
Mais beaucoup de compensations financières.
C'est pour ça que cette réforme, elle ne peut pas... peut pas être mise en œuvre en une année. En dehors du régime salarié qui est très proche du régime cible, la plupart des régimes en sont plus ou moins éloignés.
Voilà.
Et les indépendants en sont très éloignés, par exemple. Et donc, il va falloir du temps pour les amener progressivement au régime cible avec l'accompagnement.
Donc, c'est une réforme qui va coûter cher.
C'est une réforme qui va forcément coûter un peu. Forcément, on verra à la fin si elle coûte cher, mais forcément coûte.
Et elle met au jour aussi ce qu'on évoquait un peu tout à l'heure, c'est-à-dire un peu une sorte de malaise général dans l'ensemble des secteurs de la société. Comment faire pour rassurer cette société qui a l'air malade? On le voit dans tous les tous les secteurs. Il y a des manifestations
difficiles. Je reprends la métaphore médicale que... Pardonnez-moi, je vous ai coupé, monsieur. Je suis désolée. Je reprends la métaphore médicale de votre première question du début. Je pense que le président de la République a merveilleusement posé les diagnostics. Nous savons ce qui ne va pas dans notre pays. Partout. Nous savons exactement ce qui ne va pas. Nous savons ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est l'adhésion du pays. Vous savez, un médecin ne peut pas prescrire un traitement. Il ne peut pas aider un malade si le malade ne comprend pas où on l'emmène et n'adhère pas aux propositions qui lui sont faites. Et aujourd'hui, c'est cela...
Ce qui manque aujourd'hui à ce gouvernement.
Ce qui manque, et c'est pour ça que l'acte 2 est très important. Il faut que nous arrivons à faire comprendre aux Français, à partager avec eux le diagnostic, mais souvent le diagnostic est fait par tout le monde, mais surtout à partager avec eux vers où nous voulons aller et entendre évidemment leurs questionnements et les faire adhérer aux réformes structurelles que nous mettons en place. Le projet que propose le président de la République aujourd'hui, ça n'est pas, ce n'est pas des réformes, comment dirais-je, j'ai dit tout à l'heure des rustines, c'est ce que je ressens, c'est-à-dire des réformes de court terme. Nous proposons un traitement de fond aujourd'hui.
C'est ce
aujourd'hui.
Qui provoque les réactions pour vous ?
Oui, parce que long terme, d'abord, le long terme, quand on est impatient que les choses bougent, le long terme prend toujours plus de temps à être mis en œuvre. Donc, c'est la raison pour laquelle le président de la République insiste beaucoup sur une mise en œuvre très efficace des réformes. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de faire avec les Français pour qu'ils adhèrent dans la direction dans laquelle nous voulons aller, c'est-à-dire d'un pays qui est plus adapté, en fait, aux enjeux du 21e siècle, dans un monde qui bouge très vite, qui change très vite et où l'adaptation est nécessaire.
Pour donc continuer à parler de la manière dont les Français peuvent adhérer, on se retrouve dans quelques instants.
Le grand rendez-vous européen
avec Les Échos et CNews. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleureau, Mickaël Darmon.
Et on retrouve Agnès Buzyn. Damien Fleureau continue à interroger.
Oui, sur votre bureau, un dossier houleux, l'aide médicale d'État. Le président de la République a dit qu'il fallait réformer, lutter contre les fraudes. Qu'est-ce qui va bouger finalement ? C'est le panier de soins, comme on l'appelle ?
Moi, j'ai vu les sondages sur l'AME qui sont sortis. Les Français veulent qu'on arrête de payer pour les étrangers qui sont sur notre territoire. Et c'est très troublant parce qu'en réalité, je pense qu'individuellement, chaque Français n'imaginerait pas voir quelqu'un à la rue non soigné. Donc en réalité, il y a une perception que quelque chose ne va pas dans le système. Ils n'ont pas tout à fait tort. L'AME, en réalité, est souvent dévoyée. Et c'est ça que j'ai observé quand j'ai regardé de très près.
Donc la
réforme, elle est vraiment sur des gens qui aujourd'hui rentrent spécifiquement sur notre territoire pour se faire soigner avec la
contrôle des visas
d'État.
Touristiques.
Et ça, c'est des visas touristiques.
D'accord.
Et ce n'est pas forcément. Peut-être faudra-t-il mettre des actes sous entente préalable. Mais en réalité, je pense qu'une grande partie des dépenses indues sont liées en fait à un dévoiement du système. Et je suis sûre que si les Français comprenaient le fond de ce qui dysfonctionne, ils ne voudraient pas réduire le panier de soins comme on l'entend trop souvent.
Alors écoutez Agnès Buzyn, on va écouter le président de la République qui s'exprimait donc 24 heures après le rejet de la candidature de Sylvie Goulard à la Commission européenne et ensuite on récupère votre avis.
Il y a une nouvelle Commission, un nouveau Parlement européen qui se mettent en place et qui affrontent tous deux une crise politique que nous ne devons pas laisser s'installer et se développer. Je crois dans l'unité. Je pense indispensable que des solutions soient trouvées et je crois indispensable d'avoir une commission forte qui puisse porter des projets ambitieux.
Un changement de ton, de la part du président qui, il y a quelques jours avant, disait « je veux comprendre, je veux comprendre ». Là, il a changé de ton.
Je pense qu'il veut quand même comprendre, mais en tous les cas, il a raison. Je pense qu'il a évidemment raison. L'objectif, c'est d'avoir une commission qui puisse faire de l'Europe ce qu'elle doit être, c'est-à-dire un territoire souverain qui prend une place considérable dans la marche du monde. Et nous avons besoin d'une Europe très forte. Et donc,
qu'est-ce qui s'est passé avec le rejet de sa candidature de Sylvie Goulard ?
Écoutez, ce qui est quand même troublant, mais ça c'est vraiment de la politique politicienne, donc je pense que c'est pas la peine de trop parler du passé, mais il est troublant que deux commissions, la commission juridique et la commission qui évalue les conflits d'intérêts, aient donné l'accord pour la candidature de Sylvie Goulard, alors que deux commissaires n'ont pas pu se présenter. Je rappelle, le commissaire hongrois et roumain ont été bloqués dès ces commissions. Ces deux commissions ont regardé les conflits d'intérêts et les problèmes que posait la candidature de Mme Goulard et elles ont donné toutes les deux leur accord. Et ensuite, c'est un vote du Parlement qui est...
C'est un règlement de compte politique, vous dites, comme...
Il y a probablement derrière quand même quelques vengeances. C'est quand même rare que des eurodéputés français votent contre un commissaire français, surtout que Mme Goulard est quelqu'un d'exceptionnel et très, très voilà, qui connaît extrêmement bien ces dossiers. Je pense que c'est probablement dommage. Mais le président de la République regarde l'avenir. Et l'avenir, c'est que l'Europe soit forte.
Et que la Commission se débloque. Damien Fleurot.
L'avenir, pour vous, pour les membres du gouvernement, ce sont les élections municipales. Vous serez candidate, Agnès Buzyn.
Et où?
J'ai toujours dit que je voulais me présenter à une élection, donc je le ferai certainement. Le problème, c'est que je suis parisienne. Il ne vous a pas échappé qu'à Paris, il y a déjà
17 arrondissements.
Deux candidats, et d'ailleurs un de trop pour La République En Marche, à mon avis, à mon goût.
Et okay. Donc vous visez une tête de liste, hein. Ça veut dire que vous visez une tête de liste?
Non, je ne vise pas forcément une tête de liste, mais enfin, si je quitte le ministère des Solidarités et de la Santé, c'est pour avoir un rôle exécutif, c'est clair, parce que aujourd'hui, je me sens très utile dans le ministère, je sais ce que j'ai à y faire. Il y a encore une réforme d'ampleur devant moi, qui est la réforme du grand âge. Il y a dans le journal du dimanche d'ailleurs
une grande ville ou rien du tout.
Oui, mais je suis contre les parachutages. Je n'ai jamais aimé les parachutages. Je suis parisienne. Ça n'est pas mon agenda aujourd'hui, Paris. Voilà. Donc
vous n'avez pas de Paris et vous êtes contre les parachutages, du coup.
Je suis contre les parachutages et étant parisienne, étant née à Paris, vivant à Paris, ouais. Je ne me vois pas aller ailleurs. Et à Paris, je pense que les candidats sont très bien implantés. Ils font un énorme travail et un travail de terrain. Moi, j'admire la pugnacité et le travail de terrain du candidat, notamment Benjamin Griveaux, investi par La République En Marche.
Mais en même temps, vous ne vous mettez pas de côté
Non, je
ne
mets pas de côté le fait de
pourquoi
me présenter un jour à une élection, ça c'est certain, et je verrai quand ce sera mon moment.
Quel scrutin, à part les municipales, pourrait vous intéresser?
Nous verrons
mandat,
dans les scrutins qui viennent dans les années qui viennent.
Agnès Buzyn, selon une étude de la Fondapol, qui est un groupe de réflexion politique, plus de 3 Français sur 4 sont tentés par un vote protestataire en 2022, que ce soit à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. À quoi est-ce que vous attribuez cette forme de colère électorale, et est-ce que c'est un échec finalement pour l'exécutif et le président de la République ?
Que notre monde se radicalise dans tous les sens du terme, que la radicalité l'emporte, c'est un mouvement international. On voit bien aujourd'hui que partout dans le monde, les extrêmes gagnent du terrain. Et pour lutter contre cela, il faut un centre, non pas un centre mou, mais un centre très ambitieux, très volontariste. C'est ce que propose le président de la République. C'est vraiment...
Mais force est de constater qu'il n'arrive pas à le faire reculer, cette radicalité.
Non, il va y arriver, parce que quand les réformes vont porter leurs fruits, et elles commencent déjà à le porter, le pronostic de notre pays est bon. Quand on regarde les indicateurs de l'emploi, les indicateurs du déficit, de la dette, les indicateurs, du chômage, mais nous voyons bien que ces indicateurs vont tous dans le bon sens. Donc les résultats commencent à arriver, on va les engranger. On est là depuis 2 ans et demi, on a voté 2 budgets. Deux budgets. On ne transforme pas 20 ans ou 30 ans de non-réformes dans notre pays en 2 ans. Donc, les réformes portent leurs fruits. Le président de la République a une vision de ce que doit être la France dans le monde, l'Europe dans le monde, la France en Europe. Il porte un projet extrêmement ambitieux pour notre pays.
Et tout en disant, c'est Marine Le Pen qui sera face à moi en 2022. C'est la raison pour laquelle il faut prendre à bras-le-corps le sujet de l'immigration. Donc comment dire que on veut faire reculer le RN, reculer Marine Le Pen et la qualifier d'office pour le second tour?
Non, et le président de la République ne choisit pas ses adversaires pour le second tour de 2022. Le président de la République, il a une méthode. Il pose tous les problèmes sur la table de façon transparente, et il essaye de les régler un par un en apportant des solutions. Et je trouve que le débat sur l'immigration a été très utile. Quand vous regardez par exemple tous les fantasmes qu'il y avait justement sur l'AME, sur le droit d'asile, etc., on voit bien qu'on a des leviers d'action pour faire bien, pour faire mieux, mais que les solutions simplistes qui sont apportées par les uns et par les autres ne sont pas les bonnes, en fait.
Et on a vu aussi que la machine de l'État avait du mal à enclencher derrière. Nicolas Barré.
Face à cette extrémisme, mais disons, est-ce qu'il faut un discours plus fort sur l'islamisme? Xavier Bertrand dit qu'on a perdu 2 ans, qu'il y a des mosquées salafistes en France, qu'il n'y a pas assez d'expulsions, etc. Est-ce qu'il faut
150, dit-il.
Davantage de décisions, d'actes sur ce sujet?
Oui, je me méfie des grands discours, et moi ce que je regarde, c'est des actes. Or, il y a la fermeture d'écoles. On le voit régulièrement en Conseil des ministres, on voit les associations qui sont dissoutes. Ça, c'est présenté par Christophe Castaner à chaque fois parce que c'est un acte qui est discuté en Conseil des ministres. Et en réalité, il y a énormément d'actes qui sont pris sur le terrain. Il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui font. Et
il
aujourd'hui,
fait,
le gouvernement
fait de la politique,
fait.
Xavier Bertrand, quand il
bien sûr
quand
qu'il
fait,
fait de la
constat.
Politique, il veut se positionner pour 2022, tout le monde le sait, et donc il veut être le futur opposant au président de la République. Donc,
Mais est-ce qu'il y a une possibilité aujourd'hui, pardon, pour que les représentants des partis traditionnels, ex-partis de gouvernement, puissent, au fond, perturber ce match annoncé Macron-Le Pen?
Écoutez, moi, je souhaite des oppositions républicaines fortes et intéressantes. Par exemple, je reviens au débat sur l'immigration. Tous les groupes de politiques ont pris la parole à l'Assemblée nationale et on s'était dit, avec le Premier ministre, on va écouter s'ils ont des propositions à nous faire. Il n'y a eu que des discours de posture, pratiquement aucune solution nouvelle apportée. Eh bien, c'est déplorable. J'aurais préféré que les Républicains ou que les socialistes disent « Vous n'avez pas vu ça ?» Et voilà la solution que vous pourriez proposer. Et on travaillerait dessus. Nous avons besoin d'opposition républicaine responsable.
Est-ce que Marine Le Pen est une opposition républicaine?
Non.
Elle est à l'Assemblée.
Aujourd'hui, nous avons des oppositions qui passent leur temps à dénoncer. Ça suffit, ce monde de dénonciation et de constat. Nous avons besoin d'un monde de solutions. Et nous avons l'impression d'être aujourd'hui au gouvernement quasiment les seuls à apporter des solutions nouvelles pour notre pays. Moi, je souhaite que les oppositions arrêtent de faire des constats et nous proposent des solutions.
C'était le grand rendez-vous avec Agnès Buzyn. Merci beaucoup. À dimanche.
Merci Mickaël Darmon. Vous revenez en effet un dimanche prochain à 10h pour un nouveau grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos qui, je vous rappelle, est à retrouver sur europe1.fr. Justement, votre programme continue et il continue avec Frédéric Taddeï qui vous emmène ainsi qu'un invité en balade dans les rues de Paris. Et qui sera à ses côtés aujourd'hui? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Bonjour Frédéric.
Bonjour Justine, c'est avec Robert Charlebois que l'on part en balade aujourd'hui dans son quartier à Paris, car il est parisien, parisien d'adoption, mais parisien quand même.
Alors à tout de suite.